Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 844. Aujourd'hui, on vient de démarrer avec le disque coup de cœur du mois, Charles Bradley, No Time for Dreaming, chez Dapton Records. Il est un petit peu plus de 13h. On est ensemble jusqu'à 15h, avec du blues, rien que du blues. Non, avec aussi du rock and roll, avec aujourd'hui Jean-Christophe Panucco du groupe Les Witch Doctors, et puis également avec Little Bob tout à l'heure au téléphone. Jean-Christophe en live, qui va nous parler tout à l'heure de cette première partie qu'il effectuera samedi prochain pour Little Bob au Subok. Et puis ensuite, Little Bob himself. Alors, si vous avez des questions à poser à Little Bob, eh bien, dans la demi-heure qui suit, vous pouvez prendre au téléphone 02 31 94 66 66 pour les poser. Je note tout et je repose après. Et puis, si vous avez internet, eh bien, vous allez sur Facebook Marc Loison et vous réagissez en direct. Voilà, bienvenue à tous. On continue avec une nouveauté américaine, juste avant d'en arriver au disque de la semaine tout à l'heure que je vous présenterai avec Chemeka Copeland. Voici Johnny and the Motones. Ça s'appelle Nothing to Lose.
It makes me trouble.
Voilà, Nothing to lose, rien à perdre. Johnny and the Motowns, nouveauté dans ce 844e Sweet Home Chicago. Voici le disque de la semaine. Alors, c'est pas une nouveauté proprement parlée, quoique si, c'est un nouvel album chez Alligator Records de chez Mika Copeland. Mais ça reprend en fait ses quatre albums hein, qu'elle a enregistrés successivement depuis 1998 avec notamment Turn the Heat Up. Et puis ensuite, chez Mika est parti sur pas mal d'autres horizons et elle a changé de label relativement souvent. Là, il s'agit donc d'un cinquième album pour chez Mika. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, que cet album est à gagner sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Voilà, je ne sais plus quand est-ce que ça s'arrête, le concours. Il vous a encore un petit mois pour faire la recherche. Très très simple. D'ailleurs, je viens de donner la réponse. Vous voyez, donc quand même favoriser un petit peu les auditeurs. Et puis, si vous aimez gagner, si vous aimez jouer, vous notez tout de suite le numéro de téléphone de l'émission donc de Radio 666. Pareil, 02 31 94 66 66. Après l'interview de Little Bob, il y aura un cadeau. Voilà, je vous dis pas encore ce que c'est. Vous verrez bien. Hein. Puis, si ça vous plaît pas, vous téléphonez pas. Comme ça, en plus, vous allez économiser 50 centimes. Voilà. Mais en attendant, voici Living on Love, extrait de Blues Deluxe Edition chez Alligator Records, chez Mika Copeland.
Looking
Eh oui, Living on Love, voilà, donc avec son guitariste fidèle depuis, je sais plus, 14-15 ans, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, une bonne douzaine d'années en tout cas, Arthur Nelson, voilà, chez Mika Copeland, disque de la semaine, on va retrouver chez Mika Copeland tout à l'heure, probablement en deuxième heure. En attendant, je salue mon premier invité, Jean-Christophe Panucco, ça va ?
Ça va Marc, merci de l'accueil.
Ben écoute, voilà, c'est quand on a des gens qui sont amateurs de blues et qui en plus en font, et qui en plus sont de la région, il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas au moins une fois dans la radio. Dans le 666, et puis plus si affinité. Alors Jean-Christophe, tu fais partie d'un trio de blues petit peu atypique dans la région, déjà atypique pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bassiste.
Oui, il n'y a pas de bassiste, et curieusement, c'est la chose dont on nous parle le plus quand on nous voit sur scène.
Alors c'est pour ça que je voulais évacuer la question tout de suite, parce que vous n'êtes pas les premiers à faire ça, Ian Doug Taylor, en son temps, avec Serious Rockers, il avait déjà peut-être inauguré la formule. Bon, le bassiste, c'est celui qui amène l'assise, la basse derrière, à côté, dans la pièce à côté, il y a Jérém Lecoufflet qui nous écoute également et qui lui est bassiste et qui ne doit pas comprendre le pauvre garçon. Il y a forcément une explication à ça. Il y a pas assez de budget dans le groupe, ou c'est une question de son tout simplement, un choix artistique.
En fait, c'est une triple raison. On a une raison qui est une raison pratique, une raison amicale et une raison musicale.
Wow.
La raison pratique, c'est qu'on vient tous de grosses formations où on jouait trois fois par an et on a voulu créer une formation légère pour jouer dans tous les endroits possibles et imaginables, ce qui nous permet d'arriver à une quarantaine de dates par an. Ce qui pour un groupe amateur est tout à fait raisonnable.
C'est tout à fait honorable.
Une raison amicale parce qu'on s'est rencontrés par hasard et qu'on a créé un petit cercle qu'on n'a pas envie de voir trop élargir. Et une raison musicale parce que ça nous confère une certaine souplesse pour le répertoire et ça donne une couleur un petit peu plus roots avec la pulsation de la guitare acoustique qui est assez delta blues finalement. Voilà.
Alors justement, donc Jean-Christophe Panucco, guitare chant, tu peux nous présenter les deux compères ?
Oui, je fais ici avec Emmanuel Desnaux à la guitare solo et au chœur et Olivier Gébenholtz à la batterie.
Voilà. Et avant, il y avait un autre groupe auquel vous faisiez partie,
Ils faisaient partie, du groupe Clarksdale, qui a été formé avec Michel Z, autre bluesman de la région.
Et notamment également
notre ami Mehdi
chez Kameguyaz.
Exactement, bravo, ouais. tu l'as dit sans faute, Mehdi chez Kameguyaz, qui est parti à l'étranger, qui est revenu en France, mais pas encore en Normandie, on l'attend avec impatience.
Qu'on a revu au Sous-Bois il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je ne sais plus à quelle occasion, c'était un gros concert, et puis qui reviendra peut-être samedi prochain, on va en parler, parce que je sais pas si dans le coin en ce moment, Mehdi. Donc, Clarksdale, c'était un groupe, on va dire, de la côte normande, ça, du Calvados.
Basé à Langrune.
Basé à Langrune. Et donc, les Witch Doctors, ça existe depuis ?
Les Witch Doctors, ça existe depuis 2008. Mm-hmm. C'est assez récent, finalement. Parce que je suis arrivé, moi, en Normandie, et j'ai rencontré Michel Z. Et par Michel Z, j'ai rencontré ses deux anciens compères. Je lui ai pas véritablement dérobé, mais disons qu'à ce moment-là, il a arrêté de jouer avec eux. Moi, je cherchais un groupe, on s'est rencontrés, on s'est plu, on s'est aimé.
L'opportuniste, quoi.
C'est... Absolument, tout à fait.
Donc, en 2008, tu as une trentaine d'années, et tu écoutes, le blues des origines, aussi du rock'n'roll primal, on va dire.
Absolument.
C'est
assez bien défini, oui. Mais je suis venu à la musique, en fait, par le rock'n'roll primal, ce qui est. Peut-être un des points communs avec Little Bob. J'ai commencé par Gene Vincent et Little Richard. Ouais. Donc, par ces musiciens-là, on arrive à élargir ses goûts vers le blues des origines, la country également, le gospel, donc toute la musique sudiste américaine.
Oui, parce que le rock and roll, ça n'est rien d'autre que le mariage
exactement.
Du blues et de la country sudiste, exactement.
Absolument.
Et on va s'en faire tout de suite un petit aperçu avec Tutti Frutti, reprise de
Little Richard. Absolument.
Voilà, on va écouter Witch Doctor. On se retrouve juste après avec Jean-Christophe Panucco dans Sweet Home Chicago.
Rock to the west, she's the girl that I love best. To the fruit, on rooting, watching the fruit, on rooting. down to the east, she rocks to the west. She's the girl that I love best. Too true, unruly, well, too true, unruly, well, too true, unruly, too true, unruly, too true, unruly, unruly. Why bubble in my love bamboo?
Reprise de Little Richard ici par les Witch Doctors. Rappelons que les Witch Doctors feront la première partie samedi prochain, samedi 19 février, à partir de 22h de Little Bob. Ce sera au Subok à Coville. Et puis c'est une date un peu historique parce que ce sera le tout premier concert de Little Bob dans sa formation Little Bob Blues Bastards. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec l'intéressé dans une petite dizaine de minutes au cours d'une interview improvisée, une interview en live. Hein, c'est ça, c'est les meilleurs, hein, de toute façon, parce que quand on veut faire du différé, on prend 15 heures pour monter 15 minutes et hein, Jean-Christophe ?
Certainement, j'imagine.
Voilà, donc on est en direct. Et puis, justement, alors tu parlais de ton goût pour le rock'n'roll séminal aussi, peut-être pour retourner, pour rester tout à fait correct.
Complètement, absolument.
Little Richard, et puis tu citais tout à l'heure d'autres pionniers. Et puis ensuite, à un moment donné, tu es tombé sur le nom de Little Bob, mais pas forcément, évidemment, Epoch Story, puisque.
C'est une question de génération.
Hein. Tu es quand même tout jeune, je veux dire.
Absolument, moi j'ai découvert Little Bob par son album Lost Territories de 92 ou 93, je pense.
Ouais.
Et j'ai été frappé par ce mélange de rock'n'roll, de blues, de world music, et puis cette voix absolument hallucinante. Et j'ai pas décroché depuis. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois en concert, et c'est un honneur absolu que de faire la première partie. Donc je remercie les personnes responsables de ouais. ce bonheur. Voilà.
On va transmettre à Fabrice, en tout cas, il n'y a pas de souci. Donc le trio, les Witch Doctors, habituellement, vous faites des bars, vous écumez tous les bars de la région. Et les concerts durent plus de 3 heures.
Oui, absolument. On a une spécialité. On est effectivement un groupe de bar spécialisé dans le bar quelque peu excentré, dans le bar de campagne, où on arrive quand même à faire venir pas mal de monde.
Ouais.
Et c'est vrai que, emporté par la foule, nos prestations durent entre 3h30 et 4h assez couramment, sans pause, je tiens à le préciser.
Voilà. Donc, non seulement ils jouent longtemps, mais en plus, ils ne consomment pas.
Et on n'est pas cher.
Donc, ça, c'est un appel du pied pour tous les autres patrons de bar qui ne vous ont pas encore booké. Voilà, les Witch Doctors, en tout cas, vous étiez déjà venu au Subok. Il y a certains auditeurs qui s'en souviennent parce que c'était lors de la première partie de Rob Tognoni au mois d'août dernier. Un petit coucou à Michel, notamment, qui a été présente, également à Jérém, qui nous suivent sur le Facebook et qui vont très certainement revenir vous voir avec plaisir samedi prochain. Cette première partie de Rob Tognoni, tu l'avais vécu comment, Jean-Christophe ? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, en fait.
Ah, c'était assez inoubliable parce que ça nous a donné l'occasion de jouer dans cette belle salle qu'est le Subok, et je pense qu'il faut le dire et le redire. C'est vrai qu'on a tellement peu l'occasion de jouer dans de si belles conditions avec un public de passionnés. Et puis ça a été une rencontre également avec Rob Tognoni, qui est un personnage très très attachant.
Ouais, ouais.
Très attachant, très affable, très... Super, vraiment super.
Un type qui écume le monde entier,
exactement.
Lui, parce qu'il doit faire plusieurs centaines de concerts par an. Hein.
Ouais. Dans tous les pays du monde, effectivement,
exactement.
Mais avec le même enthousiasme, avec le sourire, et puis toujours le petit mot gentil, et l'ampli à fond.
Excellent. Toujours le petit mot gentil et l'ampli à fond. J'adore, j'adore. On va continuer, on va écouter un autre extrait de votre discographie, les Witch Doctors. C'est Stormy Monday. Alors là, c'est une reprise de Timon Walker, mais à version bien sûr Witch Doctor. Blues lent de genre 6 minutes, quoi. Hein.
Ouais, ouais.
En concert, ça peut durer 12, il n'y a pas de souci.
En concert, ça peut durer 12, mais on limite quand même à la durée de nos blues lents, justement,
ouais.
Parce qu'on a souvent été frustrés. Nous, auditeurs de blues, de ces prestations d'artistes tout à fait magnifiques, mais avec les solos qui tournaient et un seul morceau qui durait 25 minutes. Donc on essaye quand même de le canaliser, ce blues, pour pouvoir en jouer le plus possible. Voilà.
Et les blues, avant qu'on écoute ça, j'avais quand même encore deux ou trois questions. Tes goûts personnels, tes goûts musicaux, donc ils se sont affirmés grâce aux artistes que tu as cités tout à l'heure. Ouais. Et là, tout à l'heure, tu réagissais en écoutant chez Mika Copland, pareil, tu l'as vu plusieurs fois sur scène. Tes artistes de chevet, c'est plutôt vers le blues, vers le rock'n'roll que tu les places?
Mes artistes de chevet sont aussi bien dans le blues que dans le rock'n'roll. Je ne pourrais pas vivre dans ma vie sans un disque de Lightning Hopkins, par exemple. Oui. Mais pas non plus sans un disque de Johnny Cash sous la main, ou de Jerry Lee Lewis, hein, mais également de Bob Dylan ou des Rolling Stones. Voilà, ça va.
C'est un grand spectre.
Ça couvre tout ce spectre, effectivement.
Très bien. Eh bien, on va écouter cette version de Stormy Monday. On se retrouve juste après avec Jean-Christophe Panucco dans Sweet Home Chicago. À tout de suite.
Call it Stormy Monday, and Tuesday just as bad. Well, they call it Stormy Monday, and Tuesday just as bad. Wednesday's worst, and Thursday also sad. You know the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Saturday I go watch you play. Sunday I go to church, get on all my knees to pray. Thank you.
say, Lord have mercy, mercy on me. Well, I said, oh Lord have mercy, Lord have mercy, mercy on me. Summer Monday, all my heart's in misery.
Voilà, on peut l'entendre, c'était une version live de Witch Doctors, Tommy Monday, avec toi notamment, Jean-Christophe. Jean-Christophe Panico, invité de Sweet Home Chicago, voilà, les Witch Doctors. Alors, vos, on l'a dit hein, tout à l'heure avant l'émission, vos amours c'est le blues, le rock and roll, un petit peu la country. Tu as cité Johnny Cash hein, qui a pas mal trempé dans l'affaire aussi, Bob Dylan. Alors quand vous faites un concert de 3-4 heures en bar, ça va aller, vous allez pouvoir vous exprimer sur tout ce que vous faites habituellement. Par contre, quand vous faites une première partie d'une heure comme pour Little Bob samedi prochain, il va falloir concocter un best-of, j'imagine, pour le répertoire.
On va essayer de donner un échantillon représentatif de ce qu'on peut donner en concert, effectivement. En y glissant quelques compositions également, parce qu'on joue ça aussi.
Ouais, ouais. Tout à fait. Alors, il y a Little Bob qui a téléphone. Bob, comment ça va ?
Ça va bien, et vous ?
Ah ben, écoute, super, tout baigne.
Beaucoup mieux depuis qu'on vous entend.
Ah, c'était genre... Il y a du soleil, là, c'est super.
En plus, il y a du soleil. Tu es au Havre,
ouais,
tu es chez toi, tranquille.
C'est le printemps, là. Ouais, je suis assis, tranquillos. Et voilà, j'attendais ton coup de fil.
Ben c'est très sympa en tout cas d'avoir accepté déjà l'idée de cette interview par téléphone en direct. Et puis ben, on va parler de plein de choses parce qu'il y a une grosse actualité Little Bob en ce moment. Jean-Christophe et moi on en parlait tout à l'heure. Il a dévoré ton bouquin, hein. Il faut quand même te signaler. Je te présente Jean-Christophe Panico, donc membre des Witch Doctors, qui va ouvrir pour toi samedi prochain. C'est un vrai gros fan, hein, Jean-Christophe.
Salut Jean-Christophe.
Salut Bob. Je peux mourir maintenant, c'est bon.
Oh non, arrête. Bah non, moi je veux te voir sur scène maintenant.
Allez, on va faire ça samedi prochain.
Ouais.
Alors, ton bouquin, hein, parce que là, c'est la grosse actu quand même, Little Bob, la story, hein, donc chez De Noël, ton bouquin qui nous éclaire sur ta story, et sur ta jeunesse, sur ta découverte du rock'n'roll, et ça va jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses à dire à propos de ce bouquin-là, mais d'abord, peut-être, pourquoi et pour qui tu aurais écrit ce livre, Bob ? Little Bob, la story, c'est quoi ? L'écriture, c'est une thérapie ? Ça a été nécessaire pour toi ou...
Ben non, si, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien après coup. Mais en fait, c'est Christian Eudelin, le frère de celui qui est chez Rock & Folk, là, qui est venu me voir et qui m'a dit, moi je travaille souvent chez De Noël, je sors des bouquins. De Noël, c'est une bonne boîte, quoi, c'est un bon éditeur.
Oui.
Et ils sont d'accord que je sorte un bouquin sur ta vie, que je peux écrire. J'ai dit, écoute, au départ, ça m'a gonflé, ça m'a un peu étonné, qu'est-ce qu'il en prend, là.
Ouais, parce que...
C'est vrai que j'avais eu plein de journalistes qui, de temps en temps, me disaient, faut qu'on écrive ton histoire. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il valait mieux l'écrire maintenant que... Alors que je me souviens encore de presque tout, quoi, hein, que d'ici 10 ans, où je risque peut-être, on ne sait pas ce qui peut arriver, tu vois, puis je risque aussi d'avoir beaucoup moins de mémoire. Et donc voilà, donc j'ai accepté, il est venu, il m'a interviewé pendant 5 jours, pour lui ça allait bien, il avait de la famille au Havre. Et donc après il m'a envoyé le premier jet et j'ai pas aimé du tout.
Ah
j'ai
bon
dit là tu recommences. Là.
Ah.
Mais il me faisait parler un peu comme un... Tu sais le showbiz parisien, et en tout cas les médias en général, hein, pas tous.
Il a placé dans ta bouche des mots que tu reconnaissais pas.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et puis eux, ils sont un peu cyniques, un peu... Ça, le showbiz parisien, c'est ça, le cynisme ambiant.
Ouais, il y a peut-être des gens qui ont des comptes à régler, qui sait.
Ouais, peut-être, mais moi je raconte ma vie, quoi. Donc, et je voulais pas que ça paraisse ni trop bourgeois, ni non plus pecno, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on vit en province que... Hein. Et donc, je lui ai dit, voilà, tu recommences. Donc il a recommencé, il m'a envoyé de nouveau une centaine de pages.
Ça, ça, on ne le sait pas, ça. Quand on ouvre le bouquin, c'est pas marqué dessus, je veux dire.
Après, j'ai repris et j'ai retravaillé, j'ai rajouté. D'accord. J'ai mis pas mal de flashbacks dans le bon temps, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça m'a pris beaucoup de temps.
Tu dis que ça t'a...
C'est pas prévu, je pensais que lui allait pouvoir le faire. Donc évidemment, c'est lui qui a déclenché l'histoire. Mais j'ai écrit les trois quarts du truc, quoi.
Et tu dis que ça t'a fait du bien après, au moment de la sortie
ben ou... Oui, je me dis, putain, j'ai fait tout ça, c'est vrai. Et encore, je suis sûr que j'ai oublié des choses.
Alors, il y aura peut-être un tome 2.
Ben, oh là. Je suis pas écrivain, moi. À part écrire mes chansons...
Ah bah attends, à part les chansons, à part un bouquin... Non, ça c'est excellent d'entendre ça. Bon, écoute, à part écrire plein de chansons depuis 30 ans, à part écrire un gros bouquin qui raconte tout ce qui s'est passé, à part ça, t'écris pas, quoi. C'est...
Et, puis non, et puis quelle chanson, surtout. On parle toujours de Little Bob, le performer, la bête de scène, mais on oublie de dire qu'il écrit la quasi-totalité de son répertoire et que les titres sont fantastiques musicalement comme par les textes. C'est vraiment, c'est superbe. Et dans ce bouquin, c'est bon comme un disque de rock, quoi.
Hein, ah, merci.
Non, vraiment, c'est...
Merci beaucoup, Jean-Christophe. Mais en fait, c'est ce que me disent les fans qui m'envoient des mails et les gens qui le lisent, qui me disent on l'a lu d'un seul coup, ouais, d'un seul trait, comme si tu étais là à côté de nous en train de parler.
On vous entend parler, tout
bah, c'est vrai que c'est assez simple. Ouais. Tu peux me dire tu, hein, Jean-Christophe. Ah. Mais en fait, c'est parce que, voilà, moi je suis un mec simple, hein. Mm-hmm. Je parle, je raconte ma vie, quoi. Ouais. Et donc, voilà, ils étaient très contents d'apprendre des choses, des anecdotes. J'ai dû en oublier, parce qu'en Angleterre, on a fait tellement de concerts.
Ah ben, j'imagine, il doit en manquer pas mal. Mais en tout cas, ce qu'on apprend là, ça nous éclaire vraiment sur ta story, et notamment sur ta jeunesse, et puis ta découverte du rock'n'roll. D'ailleurs, tu égratignes Johnny au passage. Johnny, pas rock'n'roll, alors?
Ah ben, pour les Français, il est le rock'n'roll.
Oui, donc tu veux dire...
Mais
que
bon, comme je l'ai dit une fois sur France Culture...
Parce que là, il en prend plein la gueule quand même.
Hein. C'était le pays de la bourrée auvergnate. Donc voilà, c'est-à-dire que Johnny, bah, ça va, il a de la prestance, enfin il avait... ça arrive à tout le monde de vieillir. Hein. Mmh. Il a de la prestance, il a une grosse voix, il a une voix puissante. Maintenant, disons que le français n'aide pas forcément à swinguer. Et ça, c'est pas évident, hein, d'ailleurs. De swinguer en français, c'est pas évident.
Ah, ben, il y en a quelques-uns qui y arrivent. Jacques Dutronc, Alain Bachoum, on va dire.
Non, je trouve pas qu'ils swingent vraiment. Ils racontent de belles histoires.
D'accord.
Ils ont des bonnes voix. Souvent, ils parlent. Hein. T'as qu'à faire attention. Mais...
Ah, ben, Dutronc, oui, évidemment. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Et c'est moi qui donne l'exemple.
Bah oui. Non, mais, okay. Mais j'ai rien contre, et tant mieux, hein, si d'autres y arrivent. Moi, j'ai essayé, puis ma petite femme me disait toujours, « Oh non, là, on dirait Johnny, arrête.
» D'accord.
Donc, voilà.
Donc, il est un petit peu égratigné quand même dans le bouquin. Moi, j'ai eu l'occasion de parcourir quand même avant cette interview.
C'est vraiment grave. Hein.
Oh, non, c'est pour ça que j'ai employé le mot égratigné, hein. c'est pas méchant. Ça nous reporte quelques années en arrière, et puis ton arrivée en France, hein, donc comme Roberto Piazza, c'est ça?
Oui.
Hein, et puis ton papa qui te retrouve pas en bon train, enfin moi, il y a toute une histoire de quiproquo.
J'aurais pu en dire plus, hein, sur mon enfance. Regarde Keith Richards, il en a fait une tartine. Lui, il parle de tout, quoi, carrément. Il cache rien. C'est pas que j'ai caché quoi que ce soit, mais je pensais que ce qui comptait le plus pour les gens, d'abord, c'est mon arrivée qui m'a fait, en fait, qui m'a construit. Et puis le fait de parler de mes moments, de musique et tout ça, quoi.
Est-ce qu'au départ, à ton arrivée en France, tu as souffert de racisme, on va dire même plutôt de xénophobie, en fait, à ton arrivée en France? Est-ce que ça a été flagrant, ça?
Un petit peu. En plus, je suis pas arrivé au Havre tout de suite. Mon père avait pas trouvé de logement. Et j'étais à la campagne pendant 3 mois. Donc là, il y avait les requins normands, la campagne du Pays de Caux. Il faut se les farcir.
Ouais.
Moi, je les aime beaucoup. Hein, mais maintenant, ils sont devenus fans. Mais à l'époque, je me suis fait traiter de macaroni, de voleur, de... Voilà. Et il a fallu que je me défende, mais bon, j'étais tellement petit, tu sais, c'était difficile de me défendre.
Mais tu en parles plusieurs fois d'ailleurs dans ton bouquin.
Qu'est-ce que tu veux, ma taille, maintenant je fais 1m56.
Moi, ça sonne quand même mieux Little Bob que je sais pas, mais Slim Bob, ça ressemble à rien du tout, quoi.
Ouais, non, Slim, non, parce que je suis pas Slim.
Non, mais... Voilà, c'est vrai que tu en parles à plusieurs reprises, et puis c'est pas seulement le fait que tu sois italien, peut-être aussi ta petite taille, hein, qui t'a peut-être attiré à l'époque quelques colibés, je sais pas.
Que quoi ?
Quelques colibés, quelques insultes.
Ah bah oui, insultes, bien sûr. Hein.
Ouais.
Oh, même en Italie, hein, de toute façon, j'étais tellement petit que... en plus, j'avais une grande gueule. Alors, tu vois, je me faisais prendre à partie par les plus grands, qui sont pas tous, mais un peu cons, des fois.
Oui, pas tous.
Et qui m'emmerdaient. Donc, c'est pour ça que je faisais l'école buissonnière au lieu d'aller au lycée ou à l'école. Enfin, c'était l'école à ce moment-là, mais au début du lycée. Et j'allais sur le bord de la rivière, comme ça, ben voilà, c'est comme si c'était le Mississippi. C'était que le Tanaro, la fleur du pot.
Cette intégration, hein, quand tu es arrivé au début des années 60, en fait, c'est ça, fin 50,
ouais,
début 60
ça, ouais.
Si on fait le parler avec maintenant, je sais pas si on t'a déjà posé la question, avec un petit peu de recul, comment est-ce que tu vois l'intégration de la jeunesse actuelle, là, en 2011, dans notre société, par rapport à ce que toi, tu as connu? La jeunesse de maintenant, on va dire les jeunes dans les quartiers, dans les banlieues, dont on entend parler à tort et à travers, souvent,
ouais.
Quel parallèle on peut faire avec toi, ce que tu as vécu?
Ben dis donc qu'il y avait aussi des quartiers à cette époque-là, hein, parce que par exemple, lorsqu'on est arrivé au Havre, mon père avait rien trouvé d'autre, ils avaient récupéré, tu sais, il y avait un gros paquet d'ouvriers italiens qui étaient arrivés en même temps que lui, et ils sont presque tous repartis, et ceux qui sont restés, on leur a arrangé des appartements pour qu'ils ramènent leur famille dans des baraquements qui avaient été construits pour eux.
Oui.
Donc avec l'aine de verre au milieu, c'était comme des chalets, mais bon, c'était quand même des baraquements. Et donc, en fait, je suis arrivé là. Et dans ce quartier-là, c'est vrai qu'il y avait plus de Maghrébins ou d'étrangers que de Français.
Mm-hmm.
Donc on était un peu isolés, tu vois.
C'était un peu le ghetto quand même.
Un petit peu. L'impasse Rosambeau, c'était un petit ghetto, oui. Après, j'ai vu, il y avait pire, hein, mais au Havre surtout. Et en fait, moi j'étais pote avec, c'est comme ça que mon premier groupe, avec Teddy, c'était Mohamed Krim,
oui.
C'était mon pote, quoi.
Oui, oui.
Et en fait, je l'ai gardé avec moi, même si, à bout d'un moment, comme je dis dans le bouquin, je me suis aperçu qu'il jouait pas en mesure.
c'est vrai que ça paraît hallucinant, et c'est pas pour autant que tu l'as viré du groupe à coup de pompe.
Non, je l'ai pas viré parce que moi-même j'ai découvert, j'avais le tempo, hein, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais découvert ce que c'était que la mesure, c'est en jouant avec mon groupe, quoi.
Oui.
Puis on disait, tiens, lui, il finit le solo avant que nous, on ait fini nos tours, d'accord.
Ah, c'est génial, ça, oui.
Ou alors, il finit après. Et puis, j'avais demandé au type, au prof de musique, qui nous donnait des cours. Ils ont mettait plein les fouilles, hein. Plein les poches, parce qu'il nous donnait des 4 cours en même temps, donc, tu vois.
Oui.
Et il me disait, mais c'est parce qu'il est algérien, donc il n'a pas le même sens du tempo et de la mesure que nous.
Il aurait fallu qu'il joue du oud, alors.
Voilà, c'est ça, oui. Bah, pourquoi pas, hein. J'aime bien Tinariwen, par exemple.
D'accord, ouais, voilà. C'est bien. Ouais.
Et en fait, je l'ai gardé longtemps, parce que c'était un ami, quoi. En fait, c'était mon ami de quartier, quoi. Et puis, je jouais au foot, il y avait la cité des Polonais, il y avait tous les... Dans le quartier, il y avait un peu de tout, quoi. Et en fait, c'est vrai que... Donc, j'ai pas ressenti en étant môme, là. Je l'ai ressenti après, dès que j'allais en ville, dès que je prenais le bus, dès que, tu vois, j'allais au cours. Et là, j'ai ressenti un petit peu le racisme à l'époque.
Mais il y a quand même eu une intégration...
Mais bon, ça a changé quand même. Tu vois, moi, j'ai appris le français très, très vite.
Il y a eu une intégration assez rapide pour toi, j'imagine, parce que
à
te lire, on s'aperçoit quand même que tu trouves du boulot assez facilement. Il n'y avait pas 3 millions ou 4 millions de chômeurs comme maintenant.
Ah ben non.
Hein, et ça te permettait...
Autre époque, hein.
Eh oui, autre temps, autre mœurs. Tu avais du boulot, tu pouvais jouer de la musique qui te plaisait en parallèle. Est-ce que finalement, cette partie de ta vie t'inspire pas un petit peu de nostalgie, ou est-ce que vraiment tu préfères le présent?
Non, moi je pense toujours au présent et même au futur, tu vois.
Never cry about the past.
Je pense demain, là, ce qui me tarabouste le plus, c'est le premier concert des Blues Bastards avec vous au Sous-Bock.
Voilà, ça c'est
voilà,
du futur, c'est de l'avenir.
C'est important pour moi.
Exactement.
Mais bien sûr, je regrette pas ce que j'ai fait. J'ai fait des erreurs dans ma vie, j'en ai fait plein, des conneries, mais je regrette toujours pas d'avoir choisi de chanter en anglais, parce que... parce que c'est comme ça que je préfère la musique.
Et ben, je remets une petite croix parce que c'est une des questions que j'allais te poser, donc c'est parfait.
Je suis trop bavard.
Non, c'est excellent, mais par contre, on va écouter un petit peu de musique, peut-être,
ah ouais,
Bob.
C'est bien, oui,
et
oui.
Puis, on va revenir. J'ai encore plein de trucs à te demander, hein, tu vas voir. Il y a un truc qui me ferait plaisir qu'on écoute ensemble. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu l'as écouté. We All Have a Dream, donc une version live, hein, que j'avais retrouvée l'autre jour dans ce Blues Against Racism, une compilation qui est éditée par Anti-Race Records, sur laquelle on retrouve Magic Buck, on retrouve également les Blues Fellows, Thibaut Chopin, Stanobar Pacha, Tao Ravao, Roland Mali, Nel Mordé. Et puis il y a également en mixage un tout petit extrait d'un discours de Martin Luther King auquel toi-même tu fais allusion au début de ton morceau.
Eh ben oui, parce que en fait c'est un morceau que j'ai écrit inspiré par j'avais revu je crois que c'était sur Arte qui reste quand même une des meilleures chaînes de la télévision, des rares qui passent des choses. Ouais. Et à l'époque j'avais vu donc l'histoire de Martin Luther King qui était passée. Et ça m'avait, évidemment, je connaissais, mais ça m'a bouleversé. J'ai eu envie d'écrire cette chanson et la transposer à aujourd'hui, à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, d'accord, le racisme n'est plus tout à fait le même, mais de toute façon, le racisme s'est transformé en exploitation du tiers-monde, et maintenant on va peut-être le payer très fort là,
ah oui, oui,
dans
oui,
les
oui.
années qui viennent là.
On pourrait parler des réfugiés climatiques et autres, et ouais. des réfugiés économiques qui arrivent par
non,
bateau
ça,
entier.
Attends, hein. ça va être terrible pour les mômes d'aujourd'hui. Je pense que l'avenir va être difficile.
On va écouter ça.
On donnera peut-être des raisons d'écrire du blues. Hein.
Ben ouais, pourquoi
donc
pas,
moi
ouais.
c'est pas vraiment un morceau blues, mais il est blues dans l'âme, il est blues dans ce qu'il raconte.
On va écouter ça tout de suite, on se retrouve juste après, Bob. Merci encore.
Ouais.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Et puis il y a eu un discours de Martin Luther King en 1965-66 par là, qui parlait d'un rêve qu'il faisait qu'un jour noir et blanc puisse marcher dans la rue main dans la main. Malheureusement, ce rêve n'est toujours pas réalisé, ni aux États-Unis, ni même en France, dans ce pays de bonheur et de bien-être, où ces enfoirés du Front National essayent de foutre la merde. C'est une chanson pour la fraternité, pour la solidarité et pour l'amour. Ça s'appelle We All Have a Dream. Si vous pouvez chanter sur les refrains, ça nous fera particulièrement plaisir. For justice, time of solidarity. It is time for truth. The world is full of refugees. Freedom is a privilege. No one writes for free. We are living now in a state of emergency. We'll have a dream.
fantasy ain't nothing but a joke.
Ensemble.
y a des grands moments, hein. Il y a des grands moments dans la carrière d'un artiste. Je sais pas si celui-là en fait partie, Bob.
Oui, oui, certainement. Puis ouais. Là, je le réécoute, ça m'émeut.
Ah non, mais c'est vrai que là, quand tu fais chanter les gens et puis que tu parles dans toutes les langues, il se passe quelque chose.
La dernière phrase est en malgache.
En plus.
Ben ouais, parce que j'adore ce pays. J'y étais 3 fois, déjà 2 fois pour jouer. Donc...
Ça avait été enregistré alors j'ai dit une connerie tout à l'heure, c'est en 98 en fait, c'était à Montpellier au Rockstore, hein, le 6 mars 98.
Ouais. J'ai même Radio France Montpellier, tu vois, super.
Alors il y avait Denis Charolle à la batterie, Bertrand Couloum à la contrebasse,
ouais,
Nicolas, Nicolas Loël au clavier et à la guitare, c'était Olivier Durand.
Oui, Olivier Durand, ouais, qui me fait une super guitare d'ailleurs avec un solo monstrueux.
Ah oui, puis Olivier Durand qui joue maintenant depuis
avec
déjà
Elliot,
pas mal,
ouais,
avec Elliot Murphy depuis pas mal d'années.
Olivier, tu sais, je l'ai pris. Il était dans les jupes de sa mère au début. Enfin, non, il jouait dans un petit groupe au Havre. Et le premier boulot que je lui ai fait faire, c'est faire le rodi de Steve Hunter.
Il y a plus mauvais pour commencer, ça va.
Ouais, non, il était derrière, il se prenait tout dans la gueule. Hein. Mais enfin, je lui ai dit, écoute, là t'as quoi à prendre. Hein. Tu regardes, tu écoutes. Tu regardes comment il fait, parce que c'était un mec simple, Steve Hunter. Donc voilà, maintenant Olivier, après il a préféré aller jouer avec Elliot.
Il a écrit des belles chansons avec vous sur l'album Blue Stories, non?
Oui, il a écrit de...
Chela and Willy.
Il co-écrivait la musique avec moi. Ouais. Donc on avait les mêmes idées en même temps, donc ça a duré 9-10 ans, quoi. Et ça s'est bien passé, quoi. Après, écoute, ça arrive. Moi, quand il est parti, je me suis dit, il est parti, mais il m'avait dit, je vais revenir, et tout ça. Je dis, non, tu pars, c'est tout, quoi.
Ah,
ça, je suis comme ça, je suis peut-être un peu entier, mais moi, je peux supporter qu'un mec joue à contre-temps ou qu'il soit pas en mesure, tu vois, au départ, parce que c'est un pote.
Ouais.
Mais à partir du moment où je sens, pas une trahison, il a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. Puis c'était bien pour lui, quoi. Il jouait depuis longtemps avec, il me donnait la préférence et d'un seul coup, il a décidé.
Alors ça des musiciens, t'en as eu un paquet.
Voilà, mais c'est pour ça que j'ai pris Gilou, parce que Gilou est un musicien différent.
Vous avez vraiment changé de son à partir du moment où Gilles Mallet est revenu, hein, sur le...
Non.
Après Blue Stories, c'est devenu...
redevenir un petit peu plus rock'n'roll, si tu veux.
Ouais.
Mais grâce aussi au retour de Nico Garotin à la batterie.
Ouais.
Mais bon, c'était pas pour me déplaire. Donc,
ah oui.
Tu sais, Blue Stories, c'est un peu la suite logique de Lost Territories. Avec moins de moyens, puisque je l'ai fait en France, je l'ai fait à Paris dans un excellent studio. Hein.
Ouais.
Mais avec beaucoup moins de moyens, puisque c'était moi qui produisais, c'était plus IMI, c'était plus la même chose. Et en même temps, voilà, c'est un très bel album avec des titres sont largement aussi bons que ceux de Lost Territories.
Ouais.
Et l'équipe de musiciens est excellente. Et j'ai quand même Kenny et Margolis et Jesse Holliday qui sont venus nous donner un coup de main. Il y avait Sergio Tessogué. Voilà, c'était bien.
Jesse Holliday des Pearl Clones.
Ah oui, hein? Un groupe malheureusement méconnu.
Ah oui.
Ça, vous pouvez, je le dis à tout le monde, hein, si vous trouvez les albums, je sais pas où, mais...
Bah malheureusement, ils n'existent plus, le groupe s'est dissous.
Plus, ouais, ils se sont séparés.
Tu as des nouvelles de J.J. Holliday, justement?
Oui, J.J. Holliday, oui, il travaille pour la maison de production de Johnny Depp.
D'accord.
Qui est un ami à lui, à qui il a appris à jouer de la guitare. Tu
vois? Eh ben, c'est un autre
voilà,
nom. Mais...
JJ, je rêve de le faire venir. Faut que je lui paye au moins l'avion. C'est pas une question d'argent entre nous, mais.
Mais je me souviens.
Ami, hein. C'est un de mes rares amis américains qui sont restés. Les autres, c'est des bonnes connaissances, quoi. Steve Hunter, Tony Marsico, même Kenny, un peu. Mais Kenny, un peu moins, même si je le vois toujours avec plaisir. C'est lui, mon premier vrai véritable ami américain. Mais c'est JJ, lui, il est resté ultra fidèle.
Il y a quelques années, il y avait les Imperial Clones qui étaient à l'affiche du Cahors Blues Festival, pardon.
Ouais.
Et puis toi aussi, Bob, je crois que c'était en 2003.
C'était pas en même temps, mais oui, je l'ai fait, oui.
Et tu nous avais parlé en 2003, je crois, de l'existence des Imperial Clones. Et il me semble que c'est l'année suivante, en 2004, ou à moins que je décale tout d'un an, mais c'est pas grave.